Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le Mali a célébré la première édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée samedi dernier 14 janvier 2023. Cette date va commémorer désormais le grand rassemblement organisé à travers le pays suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'était en janvier 2022, précisément le 14 janvier. Pour cette première édition, beaucoup d'activités ont été organisées un peu partout dans le pays, même si des Maliens estiment que cette célébration n'était pas opportune et qu'il n'y a pas une autre souveraineté après celle obtenue le 22 septembre 1960. Alors, souveraineté au Mali, quel est l'état des lieux? C'est le thème de notre grand dialogue d'aujourd'hui avec nos invités. Docteur Alaï Bokoum de la Convention pour le Mali, il était le coordinateur national de ce grand rassemblement de 14 janvier 2022. Également, Mahamadou Doucouré du Front Unis pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, et Dr Fodje Tandjigora, universitaire et sociologue. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Merci, chers invités, d'être là. Je voudrais commencer par vous, Dr Alaï Bokoum. Comment vous avez apprécié l'institution d'une journée dédiée à la souveraineté nationale retrouvée?
Oui, merci beaucoup, mon cher. Et je profite pour dire bonsoir à Fusil Mali, à son représentant Guéla et aussi au grand chercheur Tandjigora. Et dire aussi à tous vos téléspectateurs et à vos auditeurs bonsoir. Alors, au fait, depuis le 30 novembre, au cours du Conseil des ministres, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a demandé à ce que la journée du 14 janvier soit instituée journée de la souveraineté retrouvée. Et je crois que le 21 décembre, au cours aussi d'un conseil des ministres, ils ont décidé de commémorer cette journée comme vraiment une journée qui doit être retenue dans la mémoire collective. Alors, moi, je suis doublement, sinon triplement content de tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que nous soyons là au moment où on avait décidé, contrairement à ce que les gens pensent, à partir de l'appel de Assimi le 10, non. C'est des gens qui se sont retrouvés au niveau de la maison des jeunes pour demander que toutes les organisations et tous les mouvements qui sont pour le changement accompagnent les résolutions des ANR. Ça, c'était le 9 janvier. Et rappelez-vous, vers 15h30, 16h, l'épée de Damoclès tombe sur nous, étant dans la salle, pour dire que la CEDEAO vient de prendre des sanctions contre le Mali. Et immédiatement, ceux-là se sont retrouvés pour dire, bon, on ne va plus Ko Balalembeko Soudalensa, comme disent les Bambara. On va directement aller à montrer qu'on n'est pas d'accord et on a décidé déjà le 9 de sortir le 14. Mais Dieu merci, et on a même fait une réunion d'ailleurs le lendemain, le 10, sur l'appel d'autres mouvements aussi qui se voyaient à la Bourse du Travail. On a décidé d'unifier et de faire l'union autour de du vieux Bouye Haïdara, que je salue ici, Bouye Kayeta, et puis ses enfants, Massoud et autres, et puis les Alassane Sempare et autres. On s'est tous réunis pour dire, bon voilà, il faut qu'on fasse un travail de communion et qu'on soutienne nos transitions, et on n'est pas d'accord avec ces sanctions illégales.
D'accord.
Et immédiatement, le 10, on a projeté une conférence de presse, et heureusement, l'appel nous a fait, l'appel du président de la transition a donné aussi un appel d'air à tout ce mouvement, et tous les Maliens se sont vus concernés, et de façon spontanée, sporadique, d'une façon très très compacte, les Maliens sont sortis partout le 14, et je crois que magnifier ce jour-là, il faut d'abord se dire 99% des raisons, c'est de montrer au peuple que les autorités ont compris leur message et que les autorités sont contentes de cette sortie. Et c'est une façon de magnifier ce peuple. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être contre cela.
– Pourquoi l'unanimité qu'on a eue autour de ce grand rassemblement du 14 janvier 2022, pourquoi ce n'est toujours pas cette même unanimité qu'on a eue autour de l'institution de cette journée ?–
Je vais vous dire une chose, c'est que honnêtement, cette unanimité, elle est toujours là, parce que quand on parle d'unanimité, c'est la majorité suprême. Et je puis vous jurer que tout le monde était prêt pour reprendre la même sortie. J'aurai peut-être d'autres qui vont le confirmer ici. Et on était tous prêts, on s'apprêtait. Et tous les mouvements, je n'ai pas vu un seul mouvement. Je peux vous citer une cinquantaine, si le temps le permet, j'ai la liste ici. On s'est réunis et c'est seulement le ministre de la Refondation qui nous a reçus le lundi passé pour nous dire que non, ils ont décidé de commémorer ça d'une autre manière. La fois passée, c'était dans la rue, c'était un peu partout sur les places publiques. Tout le monde est sorti, d'ailleurs, on profite pour les remercier. Mais cette fois-ci, ils vont rendre ça un peu plus académique. Ils vont amener ça dans les écoles, dans les akourjine, comme disent les Russes, c'est-à-dire les cercles de réflexion, avec les chercheurs, avec tout le monde, pour que l'idée soit comprise et que tout le monde adopte cette façon de voir désormais la journée du 14 janvier. D'accord. Si vous me permettez, je vais vous dire une chose. Maintenant, il y a des gens que même si vous dansez dans, dans l'eau, ils diront que vous soulevez la poussière.
D'accord.
Voilà. Moi, je peux revenir après, on va revenir sur les termes. Je crois que...
Mahamadou Doucouré, pourquoi une journée nationale de souveraineté retrouvée? Pourquoi souveraineté retrouvée?
Bon, moi, je commence par adresser mes voeux à l'ensemble des Maliens, ceux qui souffrent, ceux qui sont en paix, et ce pays qui souffre encore, je lui souhaite le meilleur pour l'année 2023. Tout le monde sait que 2023 janvier, on est mieux que 2023 janvier 2022. Donc on souhaite un léger mieux à l'avenir dans la cohésion, dans l'entente. Eh bien, les grands hommes font les grandes dates, les grands faits font les grandes dates. On ne peut pas, qu'on aime la transition ou pas, nier l'importance de cette date. Ceux qui sont en train de se plaindre, ils n'étaient pas parmi les 4 millions qui étaient là-bas.
Oui, mais moi, je veux savoir maintenant pourquoi une souveraineté retrouvée. Pourquoi
souveraineté, je vais en venir. Je vais en venir. La souveraineté est relative. Je parle sous le contrôle des chercheurs. La souveraineté, c'est un ensemble de bien-être, de volonté et de souhait qui... Si vous pouvez me dire le seul pays souverain sur la Terre, vous ne pouvez pas m'en citer. Personne n'est souverain, c'est relatif. La France peut être souveraine par sa propagande et tout, mais elle est tributaire des autres par rapport à certaines situations. Donc elle n'est pas souveraine. Nous, on est un État nouveau. On a eu l'indépendance dans l'orgueil, dans le patriotisme en 60. S'est lancé, qui a eu ses résultats. Mais ça s'est effrité avec le temps. Maintenant, tout ce qu'on a perdu, on ne reviendra pas dessus ici, on a perdu notre dignité. On nous dictait ce que nous devons voter à l'ONU, on nous dictait nos amis, on nous dictait les programmes à l'école. Alors, on est quoi? On n'est pas souverain. Mais vous constaterez que depuis 2 ans, nous commençons à décider, par réfléchir par nous-mêmes, décider par nous-mêmes. Donc on est fiers de dire que la souveraineté ne sera jamais entière à 100%. Mais Nambitagambi, c'est quoi? Avec le temps, chacun va se retrouver dans les résultats qu'on est en train d'engranger. Chacun va se retrouver et les rangs vont grossir d'année en année. Et demain, parce que les autorités ont décidé de ramener ça au niveau de la graine. Ils sont allés semer la graine de la souveraineté, de la citoyenneté à un autre niveau que dans la rue.
– D'accord, vous dites que la souveraineté ne sera jamais entière. Quand on dit souveraineté retrouvée, est-ce du leurre de la part de nos autorités? Mais puisque vous-même vous dites qu'il n'y a aucun pays souverain.
– c'est pas tant ce que nous avons réalisé. On ne peut pas le faire à 100%, mais toute chose a un début et une fin. Là où on est une souveraineté débutante. On a dit une souveraineté qu'on a retrouvée, qu'on avait perdue. La fierté du Malien. Nous tous autour de cette table, on est fiers d'être Maliens aujourd'hui. Tout Africain est fier d'être Africain et Malien à la fois. Donc ça veut dire que la chose est en train de porter. La chose est en train d'aller dans le sens de l'intérêt du peuple. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le Mali est un pays souverain qui choisit ses amis, qui choisit ses axes politiques, ses actes économiques. Donc on peut dire que c'est un début de souveraineté retrouvée, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, la fierté du Malien, notre armée, les réalisations qu'elle est en train de faire.
– D'accord, nous allons y revenir. Docteur Fodié Tandjigoura, êtes-vous d'accord avec M. Bokoum et Doucouré quand il parle de souveraineté retrouvée, que le Mali a retrouvé sa souveraineté? Mais tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'un État souverain, qu'est-ce qu'il caractérise?
Bon, merci une fois de plus pour l'invitation. La souveraineté, elle est connue. Hein. D'abord, elle est détenue par la nation qui seule peut déléguer la souveraineté à des individus. Donc, ce qui s'est passé le 14 janvier 2022, c'est que c'est la nation qui, dans son ensemble, a démontré, n'est-ce pas, qu'elle désormais debout derrière les élites politiques. Donc, ça veut dire tout simplement que nous avons la volonté, de façon générale, à nous hisser à hauteur des défis, mais aussi et surtout à rassurer les élites politiques que le peuple est derrière. Donc la souveraineté, c'est la capacité d'un État à décider sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur beaucoup d'autres plans, et ça doit aller en accord avec la nation. Et comme nous sommes une nation, c'est-à-dire que nous sommes une communauté historique stable, résultant de l'histoire et reconnue par chacun des membres. Donc nous sommes capables de nous arrimer et de nous entendre sur un certain nombre de faits. Ceux qui disent que c'est une deuxième renaissance ou bien une deuxième indépendance, en fait, toutes les formes d'indépendance et de souveraineté, c'est des périodes difficiles. On se souvient quand la fédération a éclaté, qui n'a vécu que quelques mois, quand Modou Keïta arrive à la gare de Bamako, c'était dans la ferveur également. Et les gens se sont arrimés derrière et Jean-Marie Koné va lui céder de façon volontaire ses pouvoirs. Donc, vous ne pouvez pas citer un cas de prise de conscience des masses sans que ça ne parte d'un événement, d'un éveil. Donc c'est une prise de conscience d'une situation injuste depuis très longtemps. Il faut comprendre ça comme ça, plutôt que de dire que bon, on était déjà indépendant. Oui, on était déjà indépendant, mais...
On n'était pas souverain.
Oui, on n'était pas du tout souverain. Maintenant, la marche...
Quand est-ce que nous avons perdu cette souveraineté?
Non, c'est-à-dire qu'au fil
du temps... Nous ne l'avons jamais eu.
Non, au fil du temps, on a connu des régimes qui voulaient bien faire. Après, on est tombé dans d'autres régimes. Après, on est tombé dans d'autres travers. Donc, de fil en aiguille, la situation s'est amplifiée. Et tout le monde sait que les élections en Afrique, on mettait en place ce que moi j'appelle des chefs d'État qu'on faisait manipuler. Et dans les coulisses, bien entendu. Et les jeux étaient déjà faits. Vous le savez, les auditeurs le savent. On pouvait mettre quelqu'un et puis l'enlever. On a même vu des entreprises qui pouvaient faire des coups d'État dans certains pays. On a même des corps spécialisés, je ne citerai pas des pays, des mercenaires célèbres d'ailleurs dans l'histoire qui faisaient des coups d'État dans les pays. Donc on mettait, on enlevait. Maintenant, la rupture avec ça, moi je comprends la souveraineté dans ce sens. C'est-à-dire que c'est une rupture avec une situation qui avait prédominé dans la géopolitique sur beaucoup de plans. Donc on rompt avec cette pratique, c'est ce que moi je conçois comme une souveraineté.
D'accord, voilà. Docteur Alaï Bokoum, souveraineté retrouvée, ça veut dire qu'on l'avait perdue. Quand est-ce qu'on l'avait perdue?
Alors là, mettons-nous d'accord sur les mots et leur signification. Je crois que dès qu'on se met d'accord sur les mots, c'est dommage que sur la table, il n'y a pas...
oui, malheureusement.
Parmi ceux-là qui veulent mettre en cause cette façon aussi de faire, de reconnaître au peuple sa mobilisation, il fallait qu'il soit là pour qu'on discute mieux, de façon contradictoire. Et voilà. Pour mettre le chercheur à l'aise, nous, on n'a pas peur de dire les mots. Enfin, on va dire les noms, hein, c'est les Bob Denard et autres, là, pour les coups d'État qui sont faits par la prédation. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur les mots. Au fait, les gens confondent le beurre et le savon. Il y en a qui confondent les serpillères et les serviettes. Quand on parle d'indépendance, c'est juste quoi? C'est par rapport à un pouvoir qui n'est plus dépendant d'un autre, n'est-ce pas? Ça, c'est la notion de l'indépendance. Le pouvoir peut être au niveau de la personne, au niveau de l'État, au niveau de... Voilà. Et quand on parle de souveraineté, là où il y a la petite nuance, c'est cette autorité suprême que l'individu a pour dire qu'il est souverain. D'ailleurs, la souveraineté, elle monte crescendo selon un cercle, qu'on soit un, deux, trois, jusqu'à ce qu'on en fasse le maillage de toute la nation, parce que qui est l'ensemble de tous les Maliens. Oui. Et maintenant, où la majorité... Et la souveraineté, c'est aussi quoi? C'est l'imposition de l'idée générale de la majorité. Tant que la majorité exige une chose, cette chose devient subitement, automatiquement souveraine. Maintenant, je vais vous en venir. C'est parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les termes.
D'accord.
Ouais, l'indépendance, c'est quand même... j'ai déjà expliqué. J'explique la souveraineté. Maintenant, le mot retrouvé. Quand on met là, c'est un qualificatif. Un adjectif qualificatif qui qualifie la souveraineté. Retrouver quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir en contact avec une chose qu'on avait, soit perdue, ou oubliée, ou mise de côté. Et eux, ils pensent que dire qu'on revient à une chose qu'on a perdue, c'est ce que moi je préfère utiliser, ou même qu'on avait oublié. C'est-à-dire la notion de la souveraineté et son importance dans la compréhension collective qui nous permet de prendre, nous, nos affaires en main et de les gérer sans avoir à rendre compte à X ou à Y. Et c'est cela qui s'est passé. Quand on ne va plus vendre notre coton au Venezuela ou au Brésil en passant obligatoirement par Paris, quand on ne va plus verser nos devises
en Europe, parce que notre coton, on le vend directement avec aux Brésiliens, maintenant on le vend directement au Venezuela, on a pris une décision souveraine. Quand on dit qu'on a élaboré trois principes sur lesquels désormais nous travaillons, personne ne peut s'immiscer dans le choix opéré par rapport à nos partenaires, par rapport à nos stratégies. Un, quand on dit que la souveraineté doit être obligatoirement respectée dans tout acte posé avec n'importe quelle personne ou n'importe quel pays, quand on dit que la volonté du peuple et le désir et les intérêts du peuple doivent être préservés dans toute prise d'action et toute décision, je crois qu'il n'y a pas mieux que ça. Et nos autorités, surtout ceux-là qui maugraient la chose, ils ont ignoré une seule chose, c'est que c'est une reconnaissance que ces autorités qui savent qu'ils doivent leur présence à cette légitimité accordée dans le cadre souverain du peuple qui s'est levé comme un seul homme le 14. Et cette légitimité, je crois que le Premier ministre, je l'ai entendu dire que le sort de la transition a été scellé le 14. Et d'ailleurs, tout le monde en parle, le président, le premier ministre par intérim, monsieur Doucouré, monsieur, tout le monde en parle. Et on est fiers. Aujourd'hui, le Mali est devenu un pays repère. Et cette lutte qu'on est en train de mener aujourd'hui a fait que l'Africain et le Malien en particulier est en train de montrer un autre chemin, un autre paradigme différent de celui auquel nous sommes, de ceux auxquels nous sommes habitués, c'est-à-dire la dépendance. Et tant que nous restons maîtres d'une décision de ce que nous devons faire, on ne peut parler que de souveraineté. Ceux qui disent que non, on avait la souveraineté, c'est vrai. On avait une certaine indépendance, on avait une certaine souveraineté, mais est-ce qu'elle était vraiment celle-là que nous vivons aujourd'hui? Non. Quand un président est obligé de dire que moi je suis très proche de la
DPI. Qu'est-ce qui a changé?
Qu'est-ce qui a changé? C'est la vision. Au fait, voilà, c'est une seule chose qui a changé. Les militaires n'ont pas changé. D'ailleurs, honneur à eux, les femmes. Les politiques n'ont pas changé pratiquement. Et les hommes n'ont pas. C'est les mêmes hommes, les mêmes dirigeants. Mais là, ce qui a changé aujourd'hui, c'est ceux-là qui gouvernent. C'est-à-dire qu'on n'a plus. On a aujourd'hui des gens qui ont une certaine vision et qui partagent cette vision avec le peuple et qui expliquent au peuple ce qu'ils font et qui demandent mandat au peuple. Et chaque fois que le peuple grogne sur un sujet bien déterminé, ils prennent les responsabilités de reculer et ce n'est pas une honte en soi. Et c'est pourquoi moi j'ai pris le plaisir de dire que depuis, moi j'ai une cinquantaine d'années, ou sinon même plus, je n'ai pas vu la démocratie au Mali qu'à partir de la rectification. D'accord. Parce que la démocratie, elle est faite pour le peuple, d'accord, par le peuple et avec le peuple. D'accord. Et c'est maintenant qu'on sent la présence du peuple dans la direction des choses.
Alors, voilà, monsieur Doucouré, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'on ne peut pas parler de souveraineté retrouvée alors qu'une bonne partie du territoire échappe au contrôle de l'État?
Mon frère, une maladie, l'entrée d'une maladie dans un corps humain, c'est un coup. Mais pour qu'elle en parte, il faut du temps.
Donc nous devrions attendre avant de parler de souveraineté.
Non. On voit les embryons, on voit l'orientation. Et nous le partageons avec ces gens-là. Ils ne sont pas seuls à agir. Nous sommes avec eux, on les accompagne. Parce que pour qu'ils soient forts, il faut qu'ils sentent le peuple derrière eux. Mais ça ne peut pas empêcher. On est 20 millions. Mais 20 millions ne peuvent pas être d'accord sur une situation. Même bon Dieu ne fait pas l'unanimité. Bon, donc, ceux qui n'étaient pas là hier ne sont toujours pas là. Mais leur désiderata, leur prise de position n'enfreindra à rien la marche de cette transition, parce qu'elle est avec le peuple. Donc, moi, je voudrais même demander à ceux qui comprennent Bambara de nous traduire le mot souveraineté. En Bambara, je n'ai pas trouvé. Je comprends un peu Bambara. En Bambara, je n'ai pas trouvé. Ne ake yereaye. Andamé Mimbama, quand est-ce qu'on a Sayakaf Samalo et tout ça? On a pris ça. Nos enfants sont en train de mourir parce que Ammalola. Donc, Nico Kiba, si on veut traduire ça en français, les mots vont nous manquer. Il y a des termes dans nos langages que la langue de Molière ne peut pas traduire. La souveraineté n'est qu'à Iréa. J'ai pris ça Iréa. Je m'assume. Je m'assume, je choisis qui, avec qui je veux travailler.
D'accord.
Mes options, je les choisis. Mes amis, je les choisis. Mon école, quelle éducation il faut donner à mes enfants, je les choisis. Ce que je mange, à partir de cet instant, moi, je vais vous dire, là, toutes ces discussions sont inutiles. Il aurait fallu, une fois avoir décidé d'être souverain, de donner des priorités pour la souveraineté, notamment l'autosuffisance alimentaire. Nous avons plus d'eau que ceux qui nous nourrissent aujourd'hui. Nous avons plus de jeunes que ceux qui nous nourrissent aujourd'hui. Nous avons plus de terres que ceux qui nous nourrissent aujourd'hui. Donc, il faut laisser le temps à cette transition de tracer les grandes orientations et de se donner les moyens pour que dans un an, on puisse dire « on avait raison ».
Alors, Dr Bokoum disait tantôt que la souveraineté, c'est aussi le pouvoir pour un État de pouvoir imposer sa décision, mais la vision de la majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à Intilit ou quelqu'un qui est à Andira Boukan peut se reconnaître dans cette vision de souveraineté ?
Mon cher, l'espoir fait vivre. Hier, ils ne pouvaient pas être à Intilit. Aujourd'hui, ils ont commencé à revenir. Combien de déplacés sont revenus sur leur terroir ? Il y en a beaucoup. Mais l'hivernage, ce n'est pas un jour. Les premières pluies donnent lieu à des choses, à des travaux. Les deuxièmes pluies, ainsi de suite, jusqu'à la récolte. La vie même, c'est un cycle. On ne peut pas tout avoir aujourd'hui, surtout ce que nous avons perdu. On ne peut pas l'avoir en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. C'est pourquoi nous, à Fusil Mali, nous sommes les premiers à demander une prolongation de 2 ans pour la transition. Il y en a d'autres même qui ont dit 5 ans, mais le pouvoir enivre. Donc on a préféré aller sur les 2 ans, on y est maintenant. Il faut faire le calme, le travail à horreur du bruit. Donc il faut faire le calme autour de cette situation pour qu'on puisse s'atteler à l'essentiel. La redevabilité de cette transition vis-à-vis du peuple qui les a soutenus, je crois qu'il faut s'attendre à ça. Mais ceux qui parlent ne seront jamais d'accord. Ceux qui nous ont amenés là, on ne peut pas faire le mieux avec les mêmes qui nous ont amenés à cette situation. La même eau ne passe pas 2 fois sous le même pont.
D'accord. Nous avons tendu notre micro à certains Maliens pour qu'ils donnent leur avis sur l'institution de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée. Est-ce que le Mali est réellement souverain, oui ou non ? Nous allons écouter ce micro-trottoir réalisé un peu partout dans le pays.
On n'est pas souverain, mais on met à la porte d'entrée de la souveraineté.
Le Mali est souverain et nous restons aussi souverains. On a mis notre pays dessus de tout, surtout nous les femmes.
Les autorités de la transition nous ont montré que la souveraineté dépend de notre comportement.
Aujourd'hui, nous sentons cette autonomie, ce pouvoir de décision et le fait même de prendre notre destin en main. Ne serait-ce que cette sensation, c'est vraiment un honneur.
On voit que les choses bougent très bien maintenant. On va continuer sur cette lancée de soutenir surtout nos autorités pour la stabilisation du pays, pour la souveraineté de notre Maliba.
Autre défi qui est là, c'est de tout faire pour qu'on puisse avoir notre propre monnaie.
Alors, les avis divergent, même si la majorité pense que nous sommes sur le chemin de la souveraineté. Mais, docteur Fodje Tandjigoura, quand vous écoutez ces réactions, surtout celle qui dit qu'on était souverain, on est souverain, le Mali restera toujours souverain. Ça veut dire que le Mali n'avait jamais perdu sa souveraineté.
Bon, je pense que c'est une façon de parler de la souveraineté, je suppose. En fait, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est-à-dire que souvent, on mélange beaucoup de choses. Il y a une partie du territoire qui est occupée,
oui.
Mais je ne vois pas le lien. En fait, il faut comprendre la souveraineté telle que pensée par les autorités de la transition. C'est d'abord, c'est un déclic, c'est une prise de conscience d'une situation calamiteuse dans laquelle nous étions. Maintenant, il n'est pas dit que c'est une souveraineté béate comme ça, c'est-à-dire que sans travail derrière. D'ailleurs, c'est précisé, c'est le travail, surtout le travail bien fait.
Mais on dit bien la souveraineté. Si toutefois la définition qu'a donnée Dr Bokoum ici, la souveraineté est vraie, est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui ? Ou bien pouvait-on pas trouver une autre définition ou bien une autre appellation à cette journée ?
Je n'ai pas retenu la définition que Dr Bokoum a donnée, malheureusement. Maintenant, d'accord. Oui, c'est-à-dire que ce que moi je voudrais, ce que je voudrais faire comprendre, parce que pour taire les critiques, en fait, il n'est pas dit qu'il y a zéro attaque. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas la difficulté. En fait, c'est quand vous prenez conscience d'une situation que vous vous organisez en conséquence pour mettre les moyens en œuvre afin d'en sortir. Moi, je considère comme un déclic général. Et la souveraineté, l'idée peut venir d'une minorité, mais c'est la masse qui s'engage et qui l'accomplit. Donc, nous sommes sur cette voie. Mais il n'est pas dit que, bon, quand on décrète la souveraineté, que ça suffit. Non, ça se traduit. C'est pourquoi on a fait des tours dans les écoles. Ça se traduit dans chaque secteur d'activité. Pour avoir un régime démocratique solide, ça doit s'asseoir sur un marché intérieur réel où on réduit la dépendance. Parce que sinon, si on est faible, eh bien, il va de soi que les moindres sanctions, les moindres écarts de la part de telle ou telle nation. Donc, je pense que Plus tard, on s'attellera à mettre en place tous les instruments qui assurent et qui nous font garder cette souveraineté. Mais il n'est pas dit que tout est résolu. Tout d'un coup, je n'ai pas compris comme ça. J'ai compris que c'est un déclic, c'est un départ. Et comme tout le peuple en est convaincu, on travaillera désormais à mettre en place l'ensemble des processus qui amèneront à garder cette souveraineté et à ne plus dépendre du dictateur.
Donc pour vous, le fait que l'État n'ait pas le contrôle de l'ensemble de son territoire ne peut remettre en aucun cas sa souveraineté.
Dans un contexte de guerre, dans un contexte de guerre qui dure plus de 10 ans. C'est-à-dire que dans un contexte d'insécurité héritée, il est compliqué de dire que bon, on ne doit pas parler de souveraineté parce qu'on est partie du territoire qui est annexé. Il faudra mettre en rapport l'ensemble des conditions qui ont concouru pour aboutir à cette situation. Moi, je demeure convaincu d'une chose, c'est que pour arriver à la souveraineté, dans tous les cas, ça ne peut pas être sans le travail. Et si on a pris conscience que désormais, voici la marche à suivre et le peuple est prêt pour le sacrifice qu'il faut, et là, on peut parler de déclic et donc de souveraineté. On travaillera désormais à garder. Et vous avez vu la diplomatie. C'est-à-dire que jamais par le passé, on a vu une telle diplomatie offensive. Le président, dans son adresse, disait qu'on n'avait même pas la primeur dans le contrôle aérien des espaces où les théâtres d'opération s'effectuent. Il fallait demander l'autorisation à une puissance quelconque pour naviguer sur le territoire. Et les autres formes. Donc, cette rupture, et c'est ce que moi j'appelle la souveraineté. Enfin, je conçois dans ce sens-là. Et pas autre chose, dire que bon, il y a des Maliens qui n'ont pas d'argent à la fin du mois, on parle de souveraineté. Mais franchement, ça ne peut pas aller. Ou bien il y a des gens qui meurent à l'hôpital Gabriel Touré. Mais il y en aura toujours. Donc ne confondons pas.
D'accord.
Voilà ces deux aspects-là.
D'accord. Une diplomatie qui s'affirme de plus en plus depuis l'avènement de cette transition, mais également des décisions que les autorités peuvent prendre librement. Ça, c'est des. En tout cas, c'est ce qu'on peut relever comme des signaux de la souveraineté pour le pays, mais certains pensent que cette souveraineté ne peut exister sans la gouvernance. Certains estiment qu'il n'y a pas de changement dans le cadre de la gouvernance. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Vous savez, au Mali, on a pris la peine de tout critiquer quand on n'est pas d'accord avec celui qui est en face de nous, ou bien quand on n'est pas à sa place. Vous savez, on a eu un mauvais contexte, et une mauvaise compréhension de l'élément pouvoir. Les gens pensent que c'est parce qu'il faut être ministre pour être un homme valeureux. Il faut être un président pour être un homme valeureux. Il y a des gens qui travaillent plus pour le Mali que n'importe quel ministre, n'importe quel président que le Mali a eu, y compris Assimi Goïta. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut qu'on démystifie les choses. Tout le monde veut être là parce qu'ils ont fait de la politique un instrument de d'existence. C'est-à-dire que la politique se nourrisse. Bon, ça ne marche plus. Le fait même de quitter cet aspect-là, parce que le peuple l'a voulu, c'est une action souveraine. Mais seulement, il faut qu'on ramène le mot souveraineté à sa dimension réelle. Parce que, vous savez, la souveraineté, c'est seulement l'application de la volonté générale du peuple. C'est ça la véritable souveraineté. Et une souveraineté là, elle ne s'exerce que par le peuple en fait. Vous voyez pourquoi il y a des royaumes. Pourtant les gens sont d'accord. Pourquoi il y a des régimes parlementaires. Pourtant les gens sont d'accord. Pourquoi il y a des régimes présidentiels. Et pourtant les gens sont d'accord. Ça veut dire que chaque fois qu'un peuple décide par lui-même, admettons que demain qu'on dise qu'on n'ira même pas aux élections, on ne va même plus faire des élections au Mali. Si nous sommes souverains, qui peut nous l'empêcher?
Oui.
Non, ça peut. En fait, les hommes politiques, ils ont peur des mots parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Sur le peuple aujourd'hui, j'ai entendu le premier dire
que tout le monde est devenu géopoliticien. Mais est-ce que le problème n'est même pas l'utilisation de certaines expressions peuple, souveraineté, il n'y a
mais,
pas de,
mais,
de...
Mon frère, le d'accord. 14 là, oui. Dimité, le 14, c'est tous les Maliens, je vous ai dit, je peux vous citer
toutes
les...
Mais il y a certains de ces Maliens aussi qui ne se reconnaissent pas dans cette décision.
Oui, mais ils sont minoritaires,
décision,
mon frère.
Dans cette décision.
Vous savez, tous les hommes politiques réunis, y compris ceux qui étaient de l'ancienne majorité et de l'ancienne opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition.
Oui.
Tous réunis, on ne fait même pas 30% de la population active du Mali. Donc maintenant que le peuple s'est approprié la chose est devenue une souveraineté populaire. Et c'est le peuple qui voudrait que ça soit ainsi. Vous savez pourquoi nos autorités tiennent? Parce qu'ils ont la plus grosse arme et l'arme la plus puissante qui est le peuple. C'est pourquoi je dis... Même ceux-là qui se disent, non, écoutez, vous colonisez, c'est-à-dire vous mettez les colonels un peu partout, vous mettez les militaires un peu partout, c'est des choses qu'on peut critiquer. C'est parce qu'ils n'ont juste pas compris
que la plus grande arme, là, ce n'est pas leurs fusils et leurs chars. La plus grande arme, même pour la transition, c'est le peuple. Donc, si vous laissez le peuple de côté, c'est pourquoi j'entends, je salue ici un grand activiste qui travaille beaucoup pour la renaissance des idées, je vais dire son nom, Sekou Toungara, qui dit toujours qu'on a aujourd'hui une force civilo-militaire qui a pris le pouvoir et qui voudrait le changement. Et ce peuple-là, pour le changement qui a été... D'abord, on a changé la façon de communiquer. On a changé la façon de travailler au nom du peuple. On a changé la façon de gérer ce qu'on a, les biens du peuple. Mais depuis combien de temps vous n'entendez plus
pourquoi les gens critiquent la gouvernance?
Vous avez parlé, ouais, parce qu'il y a des choses encore qui ne sont pas encore sur les points. Non, ce n'est même pas ça seulement. Il faut reconnaître aussi que l'administration encore aujourd'hui n'est pas épurée, hein, qu'on se dise les choses. Il faut reconnaître qu'il y a des milieux, même dans le milieu militaire, où tout le monde n'est pas honnête avec le pays. Il y a des milieux aujourd'hui dans le commerce où tout le monde n'est pas honnête avec le pays. Donc les pratiques n'ont pas arrêté. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait 20 ans, 30 ans à manger facilement l'argent du pays sans en produire, sans que ce soit le produit de leur labeur. Et cette pratique qui va changer là, c'est la souveraineté du peuple qui va l'exiger. Et c'est pourquoi je dis que quand on ramène... moi, je ne sais pas où j'ai enlevé cette intelligence, mais je crois que c'est le fruit de grandes réflexions, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui réfléchissent à la tête de l'État, qui ont amené cette histoire de souveraineté retrouvée. Parce que, en parlant de souveraineté retrouvée, c'est comme si on disait, désormais, le peuple est le seul guide suprême de tout ce qui va se faire au Mali. Donc, le peuple doit prendre cette histoire-là comme un droit, un acquis, que les autorités ont été obligées de reconnaître. Vous savez, c'est pourquoi je dis, il y a un autre aspect.
Attends,
une dernière minute. Il y a un autre aspect. Si les politiciens étaient vraiment honnêtes avec eux-mêmes, ils devaient le reconnaître. Si Assimi devait être un despote, s'il devait être un dictateur, s'il devait être une personne qui est vraiment trop séduite par le pouvoir, mais il n'allait jamais donner le pouvoir au peuple. Il allait faire de façon à ce qu'il soit vraiment, qu'il s'impose. Aujourd'hui, avec l'argent, on peut tout faire.
C'est le peuple qui détient le pouvoir.
Mais c'est clair, c'est le peuple. D'accord. Si aujourd'hui, le peuple sort comme il est sorti le 14 pour dire qu'il ne veut pas d'Assimi, je vous jure qu'Assimi n'attendra même pas 10 minutes pour rester au pouvoir. Lui-même,
d'accord,
va aller lui-même.
D'accord, docteur, Mamadou Doucouré de Fusil Mali, il y a certains qui estiment que cette souveraineté-là doit passer aussi par la création d'une monnaie nationale. Qu'est-ce que vous répondez?
Mais une monnaie, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est lié à trop de choses. Moi-même,
finalement, dire que c'est prétentieux de dire qu'on a retrouvé notre souveraineté?
Ah si, on va vers ça. On va vers ça. Ce n'est pas... Vous avez bien mangé à midi, là. Mais il a fallu...
Comment vous le savez?
Non, vous avez bien mangé. Ça va, vous êtes luisant, tout ça. Vous avez bien mangé. Mais parce que quelqu'un a sémé. Et il a attendu 3 mois, 4 mois pour récolter. Parce qu'une dame s'est mise à la fumée pour te préparer à manger ce midi. Donc le tout ne s'est pas passé en une seconde, en un clic de doigt. Un État, dans l'état de déliquescence où nous étions, je crois qu'on doit remercier le bon Dieu. Et je vais revenir un peu en arrière. Rappelons. Parmi ceux qui sont en train de se plaindre là, il y en a qui ont quitté l'école, qui n'ont jamais eu d'emploi. Ils ont eu des fonctions. Depuis, après les fonctions, ils sont retournés chez eux, ils avancent en tant que fonctionnaires comme les autres. Et ils ont des primes comme ceux qui sont en train de produire aujourd'hui. Et chaque matin, ils se réveillent pour aller au siège et comploter contre les autres parce qu'ils ne sont plus là. Soyons un peu honnêtes, sortons de ces tranchées-là. Pensons Mali, pensons nous autres là, à un certain âge, on ne pense qu'à nos enfants et à nos petits-enfants. Si tu es honnête avec toi-même, tu as un peu d'amour, tant soit peu pour ton prochain, je crois qu'il y a des comportements à ne pas observer.
– D'accord, vous le disiez tantôt que vous auriez souhaité qu'on s'appuie sur l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a pas à manger les 3 repas de la journée a à faire des expressions comme souveraineté, comme indépendance et autres? Est-ce que ce n'est pas des futilités pour ce dernier?
– Oui. Je vais vous dire…
Oui.
On pensait que sans l'aide extérieure, le Mali serait asphyxié. On pensait qu'en nous mettant un embargo inhumain, illégal et inexpliqué, le Mali allait disparaître au profit de ceux qui veulent en faire de nous ce qu'ils veulent. Mais on a pu passer ce cap-là. Ça veut dire qu'il y a des hommes au Mali.
Vous pensez que la situation est meilleure aujourd'hui? Les conditions sont meilleures?
On n'a pas d'aide extérieure. On n'a rien. Mais les fonctionnaires sont payés à temps. Mon frère, on a pu ajuster pour calmer le plan social. On a fait de gros efforts à hauteur de centaines de milliards. Et on n'a demandé rien à personne. Avant, on allait voir Kadhafi par-ci, la Banque mondiale par-là. Les histoires de restructuration, la Banque mondiale est venue, elle a tout démoli chez toi. Maintenant, on n'a pas besoin de ça. Les jeunes sont en train de créer des emplois. Avec les différentes usines qui vont être créées, il n'y a pas moins de 30 000 emplois sûrs qui sont en vue. Direct. À l'indirect, c'est des centaines. Donc, l'espoir faisant vivre, les Maliens savent que l'orientation, le cap a changé. Le cap a changé vers un lendemain meilleur. L'espoir fait vivre. Les Maliens savent aujourd'hui qu'avec ce tournant, plus jamais ça. Les 14, ça veut dire plus jamais ça. Je vais vous dire, il n'y a jamais eu d'élection où il y a 5 millions d'électeurs. Il n'y a jamais eu d'élection présidentielle ou autre chose. Mais Fuzi seul a fait circuler une pétition qui demandait la prolongation de la transition. Nous avons eu 4 300 000 signataires. Vérifié.
D'accord.
GPM qui voulait aussi.
D'accord.
Mais on se met avec GPM, on est à 10 millions.
C'est d'accord.
Et les autres, là, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent.
D'accord.
Mais le Malien lambda, le Malien normal, a autre chose à faire que d'écouter ces sirènes-là.
D'accord. Voilà. Fodié Tandjigoura, est-ce que vous comprenez l'attitude de certains Maliens qui, en tout cas, qui ne sont pas d'accord avec l'institution d'une telle journée? Bon. Ça peut s'expliquer par quoi ?
Bon, et je pense que, est-ce que leur problème, je ne pense pas que leur problème soit l'institutionnalisation de la journée.
C'est la formulation ?
Non, je pense que le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre qu'on puisse célébrer telle journée. Alors même qu'eux, ils estiment qu'il y a des problèmes, comme je viens d'en citer. En fait, c'est que si j'ai peut-être, je ne sais pas si je suis celui qui doit donner une leçon à la classe politique, en fait, les luttes politiques ne se passent pas en tout temps, en toutes circonstances. Lorsque la nation, les intérêts de la nation se trouvent en jeu, l'union est obligatoire. Et que les différences doivent se taire et faire face à l'adversité. Comme on l'a vu avec les sanctions autres. C'était sans égard. Tout le monde devait se mettre ensemble. Parce que si je suis à l'université aujourd'hui, c'est parce que le Mali existe, vous voyez. Donc, face au péril imminent et substantiel, on doit tous faire face. Et je suis d'accord que lorsqu'on veut changer, ça commence quand même par un déclic. Et ça commence progressivement. Toutes les grandes nations-là ne se sont pas réalisées du jour au lendemain. Et vous comprenez alors que l'effort, c'est obligatoire. Et si il a parlé de certaines de nos valeurs. On peut trouver dans nos valeurs traditionnelles beaucoup d'éléments pour consolider cette idée de souveraineté. Si vous enlevez les mythes, les Grecs et les Romains, ils ne seront pas connus. Pourtant, ils croient en ça. Les peuples ont besoin de grandes figures, des héros, des personnages et même des expériences douloureuses. Ça consolide l'union et ça leur permet de se positionner. Maintenant, ceux qui pensent que pour qu'on parle de souveraineté, parce qu'à Nyono, il y a telle localité, mais il faut quand même que on ait un déclic à partir d'un certain moment pour travailler dans ce sens et mettre en œuvre tout un ensemble de stratégies afin de non seulement d'avoir et de conserver notre souveraineté. Moi, je conçois ça dans ce sens.
D'accord, une journée a été instituée par les autorités de la transition le 14 janvier, désormais qui sera célébrée journée nationale de souveraineté retrouvée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer cette souveraineté-là ?
Ça, c'est un travail au quotidien. C'est-à-dire que chacun, dans chaque secteur, doit pouvoir œuvrer pour réaliser, n'est-ce pas, cette souveraineté qui a été décrétée. Parce que, je le répète, il ne suffit pas de la décréter. J'insiste toujours sur ça. Et d'ailleurs, les promoteurs en parlent d'ailleurs. Mais chaque citoyen, à quelque niveau que ce soit, peut œuvrer afin, n'est-ce pas, de consolider cette idée de souveraineté. Et il ne s'agit pas de changer d'un coup de baguette magique. Aucun pays ne s'est construit en un coup de baguette magique. L'effort est obligatoire pour arriver à cela. Et ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on ne doit pas parler de souveraineté. Je vous ai parlé de tout ce qu'on a vu, n'est-ce pas, depuis l'avènement de cette deuxième phase, sur le plan diplomatique, sur le plan, n'est-ce pas, du discours politique, le ragaillardissement qu'on a vu sur le plan du discours politique, sur le plan même de la fierté que nous donne à toute l'Afrique qui nous regarde. Moi, je ne suis d'aucun bord politique, et si je suis dans un parti politique, c'est le parti du bon sens, c'est tout. Moi, je crois qu'il ne faut pas... En fait, ce n'est pas parce que on ne partage pas une position, mais quand le bon sens se pose, qu'il ne faut pas se arranger de ce côté-là. Moi, je suis du côté du bon sens.
D'accord, mais vous pensez que nous sommes sur le chemin ?
Nous sommes sur le chemin parce que le peuple a démontré unanimement qu'il est prêt à aller dans ce sens. Et vous dites peuple, c'est l'ensemble, ça peut être les corporations, ça peut être l'ensemble des coûts sociaux professionnels. C'est ce qu'on a vu, les gens se sont mis derrière.
– Rapidement, merci. Docteur Alaï Boukoum, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer cette souveraineté retrouvée ?–
Vous savez, je vous ai toujours dit de lier le mot souveraineté au peuple. Et le fait d'amener cette journée telle, et l'expliquer, la façon dont ça a été fait, déjà, les politiques doivent savoir que c'est la meilleure façon de célébrer de façon modeste cette journée. On a déplacé juste les ministres dans toutes les régions, aller rencontrer les cadres et les forces de tous ceux-là qui veulent le changement et autres, et même les autres Maliens. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je crois que c'est la meilleure formule. On a été faire des conférences. Et en marge de cela, il y a eu, moi, j'étais à Ségouac, la délégation du Premier ministre, qui a eu sur lui l'idée d'amener tous les grands leaders qui ont participé à cette mobilisation. C'est une très bonne chose, c'est une façon de reconnaître ce qu'on a fait comme travail. Et ils nous ont donné la parole. Et moi, je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut qu'on se remette en cause sur plusieurs choses. Je vais vous donner l'exemple de deux ou trois personnalités économiques du Mali. Rapidement. Vous savez, au moment où il y a eu l'embargo, ce n'est pas de la publicité, je jure, je ne sais même pas là où il y a leur siège, je vois leur station Yara Oil. Les gens ont voulu nous empêcher d'avoir, excusez-moi, d'avoir du carburant, d'avoir du gasoil. Mais ces gens se sont battus pour qu'il n'y ait pas de rupture. Il y a un monsieur qui a amené 500 camions à un certain Togo. Excusez-moi, il y a un autre qui est parti construire des routes. Oui. Parce qu'il a les moyens, au lieu d'aller payer un immeuble à 1 milliard à choses, il y a Lakamane, il est parti construire une route entre son village et autre. Parce qu'il a vu cette souveraineté qui revient. Il y a Barou, Petit Barou, qui construit combien de routes, combien dans tous les villages, en train de construire des pieds-à-terre pour les gens. Ça veut dire quoi? Nous autres, là, admettons que les jeunes, tout de suite, au lieu de s'en donner au chicha qui est interdit, au lieu de faire des grains, pour cette souveraineté, que les jeunes se mettent en groupe, par exemple, dans chaque quartier, dans chaque carré, dans chaque rue. Imaginez que les jeunes se lèvent, ils prennent sur eux la volonté parce qu'ils voient leur gouvernement qui est en train de faire un effort, qu'ils se lèvent, ah, moi je ne vais plus attendre aux zones, je ne vais plus attendre telle chose, c'est moi qui souffre de l'état de la route, et qu'ils balaient au moins. Ça fait quoi? Chacun peut amener, même si tu n'as pas le prix du balai, tu peux enlever le balai de chez toi. D'accord. Donc cette souveraineté, moi je crois qu'il faut embeller les gens à comprendre qu'ils ont un sens de
responsabilité. On va donner le dernier mot à Mamadou Doucouré. Voilà. Qu'il faut-il faire aujourd'hui pour renforcer?
Aujourd'hui, c'est un sursaut, un éveil qui doit s'accompagner de sensibilisation à tous les niveaux pour que le Malien comprenne. On n'a pas le temps de revenir sur l'hymne national du Mali. On le chante, mais on ne le comprend pas. Oui, debout, villes.
On va pas revenir sur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup a dit ce que le peuple doit faire maintenant. Peut-être, si vous avez des recommandations pour les autorités aussi.
Ce qu'ils doivent faire doit être honnête.
Une bonne justice.
Une bonne justice, l'honnêteté et chercher le meilleur. L'excellence, tout le monde aille vers l'excellence.
D'accord, cela est bien compris. C'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue. Nous parlions de souveraineté. Et le Mali, les autorités de la transition ont désormais institué le 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. Il sera chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Pour en parler, nous étions avec Dr Fodié Tandjigoura, universitaire et sociologue, Dr Alaï Boukoum, président de la Convention pour le Mali, et Mamadou Doucouré, membre du Front uni pour l'intégrité du Mali, FUSU Mali. Ce débat a été réalisé grâce aux opérations techniques de Salim Diouara qui était à la régie vidéo et Gagny Kanté qui était à la mise en onde. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dimaouni.
Chenne Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.